Dans cette chronique, j'ai pris le parti de ne traiter l'humour énoncé par des gens qui en ont fait leur métier et qui se produisent sur scène. On aura l'occasion dans une prochaine chronique d'aborder l'humour lorsqu'il est utilisé dans les interactions du quotidien, en famille, entre amis, avec des collègues, et qui bien souvent alimente le racisme, le sexisme, l'homophobie systémique. Avant toute chose encore, je tiens à faire un point définition sur les termes majoritaires et minoritaires que je vais beaucoup utiliser pendant cette chronique. Il ne s'agit pas de les entendre au sens numérique, au sens du nombre de personnes concernées, mais bien en termes de pouvoir. Qui a le pouvoir de définir la norme à partir desquelles les autres groupes vont se définir? Le majoritaire a ce pouvoir, le minoritaire est en situation de dépendance ou d'infériorité. C'est Colette Guillaumin, entre autres, qui a beaucoup développé cette notion, notamment dans l'idéologie raciste qu'elle a écrite en 1972. Donc, suite à cette séquence homophobe du spectacle du comte de Bouderbala, quatre questions ont émergé. La première, c'est qui formule la blague? D'où parle l'humoriste? On a tous, et les humoristes aussi, un point de vue situé, avec nos privilèges, notre vécu, nos assignations, nos caractéristiques, visibles ou pas visibles. Quand des humoristes hommes blancs font des sketchs sur les femmes, ce qui est un fonds de commerce très bien exploité en France aujourd'hui, ils reproduisent les rapports de domination à l'œuvre dans la société. Ce n'est qu'un copier-coller du réel. Il n'y a aucune créativité, pas de transgression, pas de provocation, même si on veut souvent nous la vendre sous couvert de sexisme. Quand des hétéros font des sketchs entiers sur les homos, sur la gay pride, c'est pareil. C'est un point de vue extérieur à la communauté qui vient altériser, qui vient généraliser et ridiculiser une autre communauté minoritaire. Alors, est-ce que quand l'humoriste fait partie lui-même des minoritaires, son point de vue situé change quelque chose? Est-ce que si lui ou elle fait des blagues sur son groupe d'appartenance qui est habituellement stigmatisé, est-ce que ça passe parce que lui-même fait partie du groupe? Ou est-ce que ça ne fait qu'alimenter un discours dominant juste en apportant une caution minoritaire? Enfin, j'ai pensé aux humoristes du Jamel Comedy Club. Certes, leur présence médiatique sur scène à partir du début des années 2000 était une avancée en termes de représentation des minorités ethno-raciales à l'écran et sur scène, hashtag diversité. Mais pour autant, est-ce que ces humoristes y déconstruisent vraiment les codes de l'humour dominant? Il y a eu une évolution dans les artistes sur scène et il y a bien sûr une diversité dans les propos tenus. Donc je vais bien me garder de généraliser tous ces artistes qui se sont succédés depuis 15 ans sur ces scènes. Diversité n'est pas forcément synonyme d'émancipation de l'humour majoritaire. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est fondamental, c'est est-ce que l'humoriste est en capacité de rire de soi-même? Quand Océane Rosemary ou Shirley Soignon, qui sont des humoristes féminines lesbiennes, font des seules en scène, elles se mettent en scène elles-mêmes, elles se tournent en dérision, notamment leur milieu social, leur famille, leur homosexualité, elle ne rit pas de nous, elle rit d'elle-même et avec nous. La question du point de vue situé, de qui parle, est centrale. Deuxième question, de qui rit-on? Et surtout quand on ne rit pas de soi. Bah, une grande partie des spectacles comiques qui tournent en France aujourd'hui visent souvent des groupes minoritaires dans la société. Des groupes qui peuvent être stigmatisés, discriminés, moqués. Les femmes, les personnes racisées, les personnes handicapées, les lesbiennes, les homosexuels, les transgenres, les musulmans, les grosses, les prostituées. On entend rarement, slash jamais, des blagues sur les blancs, sur les hommes, sur les vieux hommes blancs, sur les personnes valides. Aujourd'hui en France, l'humour sert les intérêts des privilégiés et se fait très souvent sur le dos des minoritaires. Je ne vois que très peu de renouvellement dans les codes de l'humour mainstream. En tout cas, les éternels sketchs sur les différences femmes-hommes, les blagues sur les femmes au volant, les femmes qui ont leurs règles, qui n'ont pas le sens de l'orientation, qui sont jalouses et qui mettent la pression à leur mec, depuis que je suis née, c'est toujours les mêmes leviers. Mais ça fait rire qui, en fait? Et pourquoi on rit à ça? Puis je me suis questionnée sur l'intention. L'intention et la portée du discours de l'humoriste. Est-ce qu'il serait pertinent que l'humoriste réfléchisse à l'impact de sa remarque, de son dispositif comique sur les groupes concernés, c'est-à-dire sur le ressenti de chacun et chacune. Et au-delà, sur l'impact plus large, sur les représentations que les propos de l'humoriste alimentent dans le grand public. Est-ce que les sketchs racistes, sexistes, homophobes disent de où se situent les limites de l'acceptable? Est-ce que ce serait pas une manière intelligente et politique de pratiquer l'humour? Mais finalement, est-ce que c'est le but de l'humour que de déconstruire des rapports de domination? Je sais pas. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a une nécessité d'espace indépendant pour qu'un autre humour puisse exister, avoir une audience, trouver des financeurs et s'autoproduire. Et du coup, ça nous amène à la question du système. Le système économique qui permet la reproduction de ces codes d'humour raciste, sexiste, homophobe. Et plutôt que de pointer des humoristes en particulier, même si chaque artiste est censé avoir son libre arbitre éclairé, sa responsabilité pour les propos qu'il tient et la forme qu'il leur donne, Je voudrais plutôt réfléchir au système qui permet que ce type de discours perdure, et qui donne de la visibilité à certains artistes plutôt qu'à d'autres. Qui gère les sociétés de production dans le spectacle, à la télé, au cinéma, dans les théâtres? Ce sont des hommes, et très majoritairement des hommes blancs, qui tiennent les cordons de la bourse, qui décident de qui monte sur scène, qui ne monte pas, et surtout pour dire quoi. Il y a toute une économie autour de l'humour en France, c'est un business. Ce sont des groupes de presse, de communication, donc Coucou Lagardère, Bolloré, des producteurs, Jean-Marc Dumontet, Gilbert Rozon, Thierry Suc, Jamel Debbouze, qui ont des intérêts économiques importants et qui sont très proches du pouvoir politique. Nelly Kenmer, dans sa thèse éditée en 2014, qu'elle a intitulée « Le pouvoir de l'humour politique des représentations dans les médias en France », identifie une rupture temporelle en 2007, où à l'occasion de la campagne présidentielle, on assiste à un humour basé sur la chronique politique d'actualité. C'était avec Stéphane Guillon, Christophe Lévesque. Et il y a un backlash, c'est-à-dire une régression, un ressac, pour des humoristes, femmes et des minorités ethno-raciales qui avaient émergé avec le stand-up. Je cite « Intégrées à la culture populaire, les figures minoritaires sont détournées des discours émancipateurs. L'humour d'actualité s'avère être sur les enjeux relatifs au genre le lieu d'une réactivation des stéréotypes, tandis que sur les enjeux ethno-raciaux, il se caractérise bien davantage par une absence de problématisation, voire une euphémisation. » Pour revenir au spectacle du comte de Boudarbala, il est un humoriste a priori hétérosexuel, ou qui ne se présente pas publiquement comme homosexuel en tout cas, qui remplit tous les samedis soirs des salles d'une centaine de personnes. Il n'a aucune légitimité à désigner deux personnes dans le public, à leur inventer une identité sexuelle, à les mettre en scène, à les ridiculiser. Cela alimente l'idée sous-jacente que l'homosexualité en tant que telle est quelque chose de risible, de ridicule, et dont on peut rire collectivement et humilier quelqu'un. Et si Carlos avait été effectivement gay, est-ce qu'il aurait eu la possibilité de le dire devant toute la salle, vu comme c'était amené, comme quelque chose dont on allait se gausser? Bien sûr que non. Ça va très vite. On organise un boulevard vers l'humiliation publique, vers le lynchage. En fait, on a une réaction physique de protection. Non, je suis pas homo. Il faut une grande force mentale et courage social pour l'assumer dans ces circonstances. L'humoriste n'a même pas imaginé qu'il pouvait y avoir des personnes homosexuelles dans la salle qui pouvaient se sentir heurtées par cette mascarade. J'en ai fait partie, mon corps s'est tendu, j'étais physiquement très mal. Je n'avais qu'une peur, c'est qu'il braque le projecteur sur moi, arbitrairement, et qu'il me demande de partager avec tout ce public d'inconnus mon orientation sexuelle, me livrant à la risée, à l'opprobre, ou peut-être, c'est une option, à la solidarité du groupe. Je me serais sentie clairement en danger et honteuse, et je sais pas ce que j'aurais dit sur le moment. En proposant ce genre de séquence à un grand public, l'humoriste alimente l'homophobie systémique. Bref, les humoristes professionnels qui font des sketchs aujourd'hui en France risquent fort de reproduire le discours dominant et de renforcer les stéréotypes en vigueur, sans s'en émanciper et sans porter critique, s'ils n'ont pas réfléchi en amont à leur point de vue nécessairement situé, à leur portée de leur discours sur le public, et s'ils n'ont pas pu trouver une place pour exister dans le système économique actuel.